Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
L'instabilité au Moyen-Orient sera une nouvelle fois très présente dans ce magazine. L'avenir du christianisme dans la région inquiète profondément le Saint-Siège, tout comme le président chypriote reçu ce samedi au Vatican. Tandis qu'en Irak, le patriarche chaldéen met en garde contre la tentation du nationalisme aveugle et de la fragmentation qui a plongé ce pays dans le chaos. Nous verrons qu'en Angleterre, c'est la politique d'austérité du gouvernement de David Cameron qui inquiète le chef de l'Église catholique. Et ne manquez pas en fin d'émission nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Le président de la République de Chypre a été reçu au Vatican ce samedi. Monsieur Anastasiades, qui était accompagné de son épouse, a pu s'entretenir avec le pape François, puis avec le secrétaire d'État, Mgr Pietro Parolin, accompagné du sous-secrétaire pour les rapports avec les États, Mgr Dominique Mamberti. Les entretiens ont porté notamment sur le rôle positif de la religion dans la société et sur la nécessité de protéger le droit à la liberté religieuse. Le compte-rendu de Bernard de Cotigny.
Les deux parties partagent la même inquiétude au sujet des conflits et de l'instabilité politique qui règnent au Moyen-Orient avec leur corollaire de souffrance pour les populations civiles. Elles souhaitent que les communautés chrétiennes de la région puissent continuer à offrir leur contribution à la vie matérielle et spirituelle de leur pays. Cette visite intervenait par ailleurs quelques jours après la reprise des pourparlers interchypriotes sous l'égide de l'ONU, une reprise saluée par le Saint-Siège. Jeudi, le dirigeant chypriote grec s'était dit prudemment optimiste quant aux chances que le processus de négociation puisse aboutir à une réunification de l'île divisée depuis maintenant 4 décennies. Les troupes turques occupent depuis 1974 le tiers nord de l'île, sans aucune reconnaissance internationale. La reprise des pourparlers a été différée par la crise de la dette qui a obligé le gouvernement chypriote grec à avoir recours à un plan de secours international assorti de conditions drastiques ayant plongé le pays dans une profonde récession. Dans une déclaration commune cette semaine, les négociateurs ont affirmé leur volonté de parvenir à un règlement aussi vite que possible et d'organiser ensuite des référendums distincts. Le règlement consisterait en une fédération bicommunautaire et bizonale. Sur le plan international, Chypre serait une entité légale unifiée avec une souveraineté unique.
Et dans les colonnes de l'Osservatore Romano, le président chypriote s'est dit par ailleurs convaincu que le facteur religieux est l'un des éléments clés du conflit syrien et qu'il faut le prendre en considération. Selon lui, la communauté internationale doit adopter des mesures pour protéger et promouvoir les droits et la liberté religieuse des chrétiens dans cette région instable et troublée. On le voit bien, l'hémorragie des chrétiens du Moyen-Orient inquiète profondément l'Église catholique. L'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem travaille discrètement pour enrayer ce phénomène en Terre Sainte. Cette association internationale de fidèles, placée sous la protection du Saint-Siège, a en effet comme mission essentielle de soutenir l'Église catholique et les communautés chrétiennes de Terre Sainte. Mais les temps changent et des défis nouveaux surgissent. Pour nous en parler, le gouverneur général de l'Ordre, le comte Agostino Borromeo.
En Jordanie, sur la mer Rouge, nous avons construit à partir de zéro une église. On a dû construire cette église parce que la communauté chrétienne, paradoxalement, s'est accrue en nombre. Parce qu'il y a un phénomène qui nous concerne, c'est une immigration de catholiques qui viennent de l'extérieur de la Terre Sainte, surtout des Philippines et de l'Inde, du Kerala. Aqaba est une station touristique sur la mer Rouge. Beaucoup de gens qui travaillent dans les hôtels viennent ou des Philippines ou de l'Inde. Par conséquent, celle qui était une petite communauté de 150 personnes chrétiens est maintenant composée de 2000 personnes. Mais 1850, enfin environ, ne sont pas jordaniens et pourtant c'est des chrétiens qui vont à l'église. L'immigration existe aussi en Israël et est en train d'opposer un nouveau phénomène. Les fils d'immigrés des Philippines font leurs études dans des écoles israéliennes. Par conséquent, la deuxième génération ne parle pas arabe, mais parle israélien. Nous avons une communauté croissante de catholiques d'expression hébraïque, qui donc ont besoin de soins pastoraux, de célébrations liturgiques en hébreu et non plus en arabe. Et voilà que nous sommes en train d'aider la communauté catholique d'expression hébraïque, a construit une église à Tel Aviv pour qu'ils puissent se réunir.
Vers quel domaine privilégié s'oriente l'aide que vous apportez aux chrétiens de Terre Sainte ?
Notre principe, c'est que les chrétiens étant une minorité, les catholiques en Terre Sainte sont environ 1,5% de la population. Lorsqu'on fait partie d'une minorité, on doit émerger par l'excellence de la présence dans la société. Et donc, c'est surtout par la formation, soit la formation professionnelle, soit la formation universitaire. Donc, nous concentrons notre effort sur le système scolaire catholique, surtout celui du patriarcat latin de Jérusalem, sur l'université de Bethléem, qui est une université catholique, et sur les écoles professionnelles. Il y en a une aussi à Bethléem, très importante, qui est gérée par les Salésiens.
Est-ce qu'il y a de manière générale des priorités plus particulières à l'heure actuelle ?
Par rapport au passé, notre aide était surtout orientée vers les institutions catholiques. Cependant, nous sommes conscients de plus en plus qu'il y a un problème qui va au-delà de la vie des institutions catholiques, et c'est le problème de l'émigration. Les chrétiens, dans une situation difficile, où il y a du chômage, où il y a la menace de la violence, des tensions de tout genre, ont tendance à émigrer. Donc, nous essayons aussi de prendre ces initiatives qui peuvent encourager les familles et surtout les jeunes à rester. Par conséquent, nous essayons de développer peu à peu une politique de microcrédit, ou bien nous sommes en train d'étudier en ce moment un système de micro-assurance sur la santé qui permettrait, en payant une prime très basse, de garantir l'assurance sur la santé à tous les chrétiens.
Le comte Agostino Borromeo, gouverneur général de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le patriarche irakien Louis-Raphaël Ier Sacco a annoncé publiquement ces jours derniers son projet de constitution d'une ligue chaldéenne. En ces temps difficiles en Irak, cette association aurait pour mission de coordonner et de favoriser la contribution des chrétiens chaldéens à la société civile et d'aider l'Irak à vaincre les dérives du sectarisme confessionnel et ethnique. Cyprien Viette.
En Irak, la fragilité des institutions, la montée du fondamentalisme islamique et le faible sentiment d'identité nationale menacent tous les Irakiens, particulièrement les chrétiens. Parmi ces derniers, ce sont les plus qualifiés qui émigrent à l'étranger. Il ne reste plus que les plus défavorisés. Mais le patriarche de Babylone des Chaldéens ne baisse pas les bras. Il veut renforcer la présence des chrétiens dans la société irakienne. Une présence fragmentée sur la scène politique comme dans le domaine culturel et social. Le projet de regrouper les chrétiens irakiens dans les plaines de Ninive semble définitivement écarté. Cela fait des mois que Mgr Sacco appelle les chrétiens à s'impliquer dans la vie politique pour assurer la survie du christianisme en Irak et sauver l'État irakien, reprochant aux Occidentaux de ne pas comprendre la situation. Au mois d'octobre à Rome, il avait appelé tous les chrétiens irakiens à unir leurs forces et proposer la création d'un conseil politique chrétien. Le modèle qu'il préconise aujourd'hui se limite à la communauté chaldéenne, à l'exemple d'organisations telles la Ligue maronite et la Ligue syriaque, sans protection formelle ou soutien économique direct de la part des hiérarchies ecclésiastiques. Une élite de laïcs chrétiens ayant un rôle dans la vie publique, déterminée à valoriser la contribution des Chaldéens à toute la société. La proposition du patriarche, qui a déjà recueilli des adhésions et des commentaires positifs, et qui s'adresse également aux Chaldéens de la diaspora, devrait prendre une forme plus précise d'ici l'été.
Le chef de l'Église catholique en Angleterre et au Pays de Galles a qualifié de honte la réforme du système de protection sociale engagée par le gouvernement britannique dans le cadre notamment d'une politique d'austérité visant à réduire le déficit public. Dans une interview au Télégraphe, le cardinal désigné Vincent Nichols comprend qu'il faille se serrer la ceinture et être plus responsable en matière de dépenses publiques. Mais il pense aussi que le filet de sécurité de base, qui était là pour garantir que les gens ne souffrent pas de la faim ou ne basculent pas dans la pauvreté, a été réduit en lambeaux. Le ministère du Travail et des Retraites s'est défendu en expliquant que le gouvernement avait hérité d'un système de protection sociale mal en point. Ce n'est pas la première fois que les chrétiens britanniques donnent de la voix pour défendre les victimes de la récession sociale et pour dénoncer les nouvelles lois qui stigmatisent les plus pauvres. Il y a quelques mois, 18 évêques anglicans ont été montés au créneau pour mettre en garde contre l'extrême précarité et l'absence de logement qui menace des dizaines de milliers de foyers. Ce dimanche après-midi, le pape François visitera une paroisse romaine. L'église Saint-Thomas-Apôtre a été construite il y a moins d'un an dans un quartier résidentiel pour remplacer une église des années 60 qui était devenue insuffisante. Le Saint-Père célébrera l'Eucharistie à 18h après avoir rencontré la communauté paroissiale. Les enfants du catéchisme, ceux qui se préparent à recevoir la confirmation, les bébés baptisés dans l'année, les handicapés, les malades, puis il confessera 5 fidèles. L'église ne peut accueillir que 400 personnes environ, des écrans géants ont donc été installés à l'extérieur. À l'offertoire, la communauté remettra au pape François une aide concrète pour les pauvres. Avant-dernier volet de ce magazine, à l'écoute de la Bible de Michel Villot, c'est le livre pour Dieu que nous propose cette semaine Catherine Aubin.
Cette semaine, un livre pour Dieu dont l'auteur est un ancien pasteur luthérien, maintenant prêtre catholique à Blois et aumônier de prison. Il s'agit du père Michel Viau. Son livre « À l'écoute de la Bible », nous lui avons demandé d'où lui vient cet amour pour la parole de Dieu.
J'ai eu envie de lire la parole de Dieu au retour de Lourdes parce que je suis arrivé à Lourdes en touriste et vraiment sans pratique religieuse. Mais j'ai été tellement impressionné par la foi il y avait autour de cette grotte de Massabielle, que j'ai voulu en savoir plus sur la Vierge Marie. Et mon père m'a dit, bon, ben, il faut que tu lises la Bible, il faut que tu fasses ton catéchisme. Et il se trouve que j'ai rencontré des protestants en Alsace, et on lisait la Bible, et c'est ce qui m'a donné envie de faire mon catéchisme protestant. Et j'ai été amoureux de la Bible au fond de l'âge de 14 ans, puisque j'ai déclaré à mon pasteur que je voulais être pasteur et consacrer ma vie à l'étude de la Bible. Donc le départ de ma vocation, c'est la Bible. Et de tout le long de mes études, c'est l'exégèse qui m'a le plus intéressé avec l'histoire de l'Église. Donc pour moi, cette parole est vivante, elle m'a guidé, et il faut lui accorder une très grande importance dans l'homélie. D'ailleurs, ça rejoint la préoccupation de Benoît XVI dans Verbum Domini à propos des homélies.
Comment avez-vous pensé et construit vos homélies?
J'ai gardé la méthode protestante, parce que je pense que la Bible, c'est une suite de textes très anciens et de civilisations dans lesquelles il est extrêmement difficile d'entrer si on ne se livre pas d'abord à une exégèse profonde. Mais il faut quand même expliquer aux gens ce que signifiait le texte à l'époque, et ensuite de voir comment on peut le transposer aujourd'hui. Mais il est absolument nécessaire d'expliquer à l'époque ce que voulait dire tel ou tel symbole. Par exemple, le sel, lumière du monde, qui perd sa saveur, donc vous savez que c'est chimiquement impossible. Pour comprendre la parabole du sel, il faut se souvenir qu'à l'époque, le sel avait trois fonctions, donner du goût, purifier, et aussi conduire le feu. C'est le sel qu'on mettait dans les pains de sel dans les fours des boulangers pour accentuer la conduction du feu. Et là, effectivement, au bout de quelques temps passés dans les fours, le sel ne conduisait plus le feu et on le jetait. Mais si on ne comprend pas ces trois images du sel, on ne comprend pas pourquoi Jésus parle de que ça puisse perdre sa saveur. Et alors après, deuxième exercice, c'est d'actualiser, c'est-à-dire de voir comment au XXIe siècle, ces idées-là peuvent nous être utiles et peuvent nous faire grandir dans la foi et dans la sanctification. Il y a un travail exégétique qui, bien sûr, aplani est mis à la portée des laïcs, et ensuite il y a une actualisation qui est évidemment à choquer. Là, on prend un risque sur, par exemple, le manque de saveur de ce monde. Alors là, les exemples ne manquent pas. Et comment est-ce que les chrétiens peuvent donner à ce monde plus de saveur? Comment est-ce qu'ils peuvent être conduits du Saint-Esprit, conduits du feu du Saint-Esprit dans ce monde qui n'en veut pas, etc. Il faut se risquer à l'actualisation pour bien montrer aux chrétiens que cette parole d'il y a 2000 ans ou plus, elle les concerne aujourd'hui dans leur vie quotidienne.
Vous avez voulu donc donner non seulement des clés de compréhension, mais quelque part remonter le courant pour réveiller à travers vos homélies.
Voilà, il faut réveiller, exactement, parce que cette nouvelle évangélisation, elle ne se fera que s'il y a un renouveau de l'homélie. Il ne faut pas oublier qu'avant la réforme du XVIe siècle, qui est une des grandes causes de la réforme, et ça les historiens catholiques comme les historiens protestants sont d'accord pour le dire, c'est la crise de la prédication. Où les gens ne prêchaient plus, où s'embarquaient dans des sermons absolument incompréhensibles, et moralité, on n'écoutait pas. Et je crois que dans beaucoup de nos messes, il y a 90% de nos fidèles qui n'écoutent pas les sermons et qui se barbent. Et qu'ils seraient incapables à la sortie de la messe de dire ce que le curé a dit pendant l'homélie. Ce que je souhaite, c'est que les prêtres prennent vraiment grand soin de la préparation de leur prédication.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Et c'est l'heure de donner la parole au Père Pascal Montavi pour le commentaire de l'Évangile de ce 16 février, 6e dimanche du temps ordinaire. C'est l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37. « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir ».
Jésus enseigne que ses disciples sont toujours appelés à suivre une certaine forme de conduite. Mais il ne s'agit plus de respecter les lois mosaïques. Les pharisiens sont ceux qui s'attachent avant tout à cette loi, et Jésus nous dit que si notre justice ne surpasse pas la leur, alors nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. De fait, notre justice nous vient de notre foi en Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés. C'est en croyant en Jésus et en acceptant sa miséricorde que nous sommes justifiés. Cette foi en Jésus entraîne cependant un changement dans notre comportement quotidien. Comme le dit saint Jacques, une foi sans les œuvres est une foi morte. Dans son discours, Jésus nous montre combien il est important de lâcher nos fausses croyances pour découvrir celles du royaume. Il dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, eh bien moi je vous dis ». C'est donc au changement, à un renouvellement de notre esprit que le Seigneur nous invite. Comme il est parfois difficile d'accepter de remettre en cause ce que nous croyons être un principe absolu et qui n'est en fait qu'une croyance que nous avons forgée nous-mêmes pour nous protéger ou en raison de la dureté de notre cœur. Pour illustrer sa pensée, Jésus donne plusieurs exemples. Arrêtons-nous sur deux d'entre eux, la colère et le faux serment. Jésus dit « Tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. » Puis il invite celui qui va présenter son offrande sur l'autel à aller d'abord se réconcilier pour revenir, ensuite, dans un second temps, présenter son sacrifice. Jésus montre par là qu'il n'est pas possible de l'honorer, de le louer pleinement si nous entretenons de la haine pour notre prochain. Dans le même sens, saint Jean dira « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. » Aimer Dieu et son prochain vont ensemble. Il n'est pas possible de séparer l'un de l'autre. Jésus dit aussi de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul cheveu blanc ou noir. Jésus nous rappelle que nous sommes des créatures et que le Créateur, c'est Dieu. L'homme peut parfois avoir la prétention d'asservir la création comme s'il en était lui-même l'auteur, comme s'il pouvait changer les lois de la nature elle-même. Il s'engage alors à changer l'ordre des choses. Il prétend dominer la terre grâce au progrès d'une technique qu'il croit toujours plus perfectible et donc sans limite. L'homme oublie ainsi qu'il n'est en fait que le gérant d'une création que le Seigneur lui a confiée. Une bonne gérance commence par découvrir et accepter les réalités mêmes qui nous sont imposées. Avec le temps et l'expérience, l'homme découvre alors que cet ordre des choses voulu par Dieu est bon. Le refrain qui jalonne le récit de la création ne dit pas autre chose, et Dieu vit que cela était bon. En ce dimanche, acceptons de laisser le Seigneur revisiter chacune de nos croyances, afin de faire de nous une créature nouvelle, attentive et respectueuse des dons que le Créateur nous a faits.
« Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous signale encore que sur son compte Twitter, le pape François a appelé les chrétiens à prier pour la paix en Afrique, spécialement en République centrafricaine, où la population musulmane continue de faire l'objet de représailles violentes malgré la présence de soldats étrangers, et au Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde qui s'enfonce dans un conflit ethnique moins de 3 ans après sa naissance. Ce pays compte déjà 900 000 déplacés sur 11 millions d'habitants. Je vous souhaite un excellent dimanche.